franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les blousons noirs, chronique d'une jeunesse phénomène. Ils s'appelaient Bertrand, Clément et Denis, ou plutôt Twisty, Jimmy et Nevada, de leur vrai nom, ceux de leur bande, la bande du quartier, à la lisière des villes, dans les banlieues au pavillon délabré, en bas de cette tour qu'on regarde encore avec espoir. Cheveux mi-longs gominés vers l'arrière, manteau de cuir sur les épaules, blue jeans serrés au gibbel, chaîne de vélo à la main et adossée au scooter, Little James Dean en tête et le rock sombre de Vince Taylor sur le transistor, voici donc les blousons noirs. Car c'est ainsi qu'on nomme à la fin des années 50 et au début des années 60 une certaine jeunesse. Surgit au cours de l'été 1959, présenté comme un véritable phénomène, des bandes de jeunes, vêtues de blousons noirs, donc, sèmeraient la terreur un peu partout dans le pays. Vol, bagarre, destruction en série, avec eux, le fait divers devient enjeu de société. Mais comme tout mythe, les blousons noirs disent aussi une réalité. Celle d'une époque, les Trente Glorieuses, celle d'une jeunesse qui augmente et prend conscience d'elle-même, qui invente sa propre culture, ses codes, ses aspirations, celle d'une délinquance qui augmente, d'une violence sans cause, celle enfin d'une génération aînée qui n'avait pas prévu ce surgissement et qui se retrouve confrontée à un monde qu'elle ne comprend pas. Pour en parler en seconde partie d'émission, après le récit, nous recevrons Sophie Victorien, historienne, elle a beaucoup travaillé sur la jeunesse. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Valérie Priollet, coordination, Christophe Barrère, programmation musicale, Muriel Pérez, réalisation, Fabrice L'Aigle. À la technique aujourd'hui, Henri Bérec.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le 23 juillet 1959, Paris, rue des Volontaires, dans le 15e arrondissement. Il est aux alentours de midi et demi ce jour-là, quand la bande dite de Saint-Lambert, qui réunit une trentaine de jeunes garçons âgés de 14 à 20 ans, attend dans le square du même nom la bande Perdetti, composée de jeunes habitants du quartier de la Porte de Vanves. C'est qu'il s'agit de régler quelques comptes. Le square, à l'époque, c'est l'endroit où les jeunes se retrouvent après l'école ou le travail, entre eux, pour discuter et passer le temps, à l'écart, des croulants, comme ils disent à l'époque. Entendez, leurs parents, leurs aînés. Le problème, ce jour-là, c'est que la bande de Perdetti ne vient pas au rendez-vous. Alors, celle de Saint-Lambert se disperse dans le vacarme. Passablement échauffée, elle bouscule des passants et s'attaque à un café. Face au chahut, la police intervient et 27 jeunes sont interpellés. Le lendemain, 24 juillet 1959, à Bandol, cette fois, dans le Var. Au bord de la mer, c'est l'été, la saison des bals. Ce jour-là, deux jeunes Toulonnais se rendent dans cette ville de bord de mer située à une vingtaine de kilomètres. Arrivés sur place, à l'entrée de la fête, des jeunes bandolais leur interdisent l'entrée sous prétexte que la soirée est réservée aux estivants. En réalité, se cache une histoire de fille derrière cette raison. Les deux jeunes Toulonnais répondent « C'est bon, on retourne à Toulon, mais nous reviendrons en force ». Effectivement, voilà la bande de Toulon qui revient pour sa folle équipée affronter la bande de Bandol. Résultat des échauffourées, un pêcheur blessé et une vingtaine d'arrestations. La plupart seront condamnés à plusieurs mois de prison avec sursis. Très vite, la presse s'empare de ces deux faits divers survenus coup sur coup d'un bout à l'autre de la France. Les journalistes relèvent les points communs aux deux affaires. Des jeunes, en bande, nombreux, armés de gourdins, de chaînes de vélo, de poings américains. Enfin, et puis surtout, ce blouson noir que beaucoup arborent et que leurs parents abhorrent. Le signe distinctif est trouvé et l'été 1959 donne des sens au phénomène.
Allô, ici Cannes. Après Paris et Bandol, Cannes a été atteinte par la gangrène des blousons noirs, dans la nuit de samedi à dimanche notamment. Armés de matraques de ceinturons améliorés, c'est-à-dire modifiés 59 avec des ornements métalliques, ils s'attaquèrent d'abord à de paisibles danseurs qui participaient à un bal populaire.
Eh bien, il faut vous dire encore aujourd'hui, pour être tout à fait complet, il faut revenir sur ces navrantes histoires de blousons noirs.
Dans nos différentes émissions de la journée, nous avons déploré une fois de plus les exactions des blousons noirs. Hier, et c'était la scène, vous avez entendu dans l'actualité de midi un reportage, vous savez que 40 voyous ont attaqué une colonie de vacances.
Toutefois, une dizaine de ces rognures de Nervi a pu être arrêtée Et à l'heure où je vous parle, ce joyeux groupe a déjà été présenté au procureur de la République.
Aujourd'hui, l'inspecteur principal Berthelot et ses adjoints de la 6e brigade territoriale viennent d'arrêter une bande de jeunes malfaiteurs particulièrement dangereux. Leur mauvais coup accompli, ce fut dans un hôtel de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement, qu'ils terminèrent leur équipée après avoir assommé le gardien de nuit et s'être enfui en emportant 14 000 anciens francs.
Mais enfin, qu'arrive-t-il à la jeunesse française ? Durant ces semaines d'août 59, le pays construit le mythe des blousons noirs. C'est une une de François, au cœur de l'été, qui lance l'expression. Dans la foulée, un genre se crée, avec ses rubriques à coups de gros titres et d'éditoriaux alarmés et alarmistes, on dépeint une France assiégée par les bandes de jeunes. Il suffit parfois de compter. Le magazine Détective consacre 5 numéros successifs au phénomène. La Voix du Nord, 11 articles en 5 semaines. Et on n'hésite pas à tordre quelque peu la réalité, à faire compétition de superlatifs, à user du lexique guerrier, de nombreux articles s'ornent de photographies, le plus souvent mises en scène, où les jeunes garçons posent fièrement le regard dur et fier, bien dans leur rôle. Très vite, les différents services de police interviennent pour dénoncer ces pratiques journalistiques et relativiser cette vague violente et dangereuse d'une jeunesse vêtue de noir. Pour autant, ils ne peuvent nier la répétition et les similitudes de cette série d'actes délinquants. Entre mythe et réalité, cet été 1959 est celui où la France se confronte à une nouvelle réalité, sa jeunesse.
Revenons, si vous le voulez bien, sur ces gangs d'adolescents, non pas au titre du pittoresque, mais du danger public et de la conclusion pratique qui s'impose. Pour utiliser la publicité énorme faite par la presse, un film imité des tricheurs et des cousins va sortir sur les Teddy Boys français. Titre « Blouson noir », tout simplement, et vedette principale, Nathalie de la Faisanderie, égérie véritable, sic, du gang du quartier Saint-Lambert. Ainsi se trouve bouclé le cercle vicieux de la corruption systématique auquel on soumet la jeunesse, les petits voyous sortis du cinéma qu'ils engraissent à être en spectateurs y reviennent et comme acteurs. C'est un comble, le comble de la folie et peut-être du crime. Tout le problème est là et il faut bien que quelqu'un ait le courage de le dire. On ne doit pas faire le coup du héros de roman ou même de cinéma à des gosses qui relèvent simplement du coup de pied au derrière.
Les blousons noirs deviennent le signal éclatant de la prise de conscience d'une réalité sociale latente depuis plusieurs années. Déjà en 1955, pour la fête du 14 juillet, plus de 300 jeunes armés de chaînes de vélo qui se retrouvaient pour se battre entre bandes rivales avaient affronté la police en plein cœur de la capitale. Déjà en 1957, dans le journal L'Express, la journaliste Françoise Giroud lançait une vaste enquête sur cette nouvelle vague pour sonder et interroger la jeunesse française. Les thèmes de la crise des jeunes et du conflit de génération apparaissent alors et la jeunesse des années 50 s'affiche comme une nouvelle question sociale. En toile de fond, la crainte, la peur face à la montée de la délinquance. Depuis plusieurs années, les spécialistes, la police et le public s'intéressent à la hausse statistique des actes violents ou de désordre, vols, bagarres, vandalisme. D'ailleurs, l'autorité et le respect envers les forces de l'ordre ne seraient plus ce qu'ils étaient. La littérature, le cinéma s'emparent également du phénomène. On pense notamment au film « Les tricheurs » de Marcel Carnet, sorti en 1958, qui met en scène des bandes de jeunes adeptes des règlements de compte dans les terrains vagues. Et puis bien sûr, on regarde à l'extérieur pour voir si on est vraiment les seuls à être confrontés au phénomène. C'est du côté des États-Unis d'abord qu'on commence à s'inquiéter de sa jeunesse. Au cinéma, on retrouve les idoles revendiquées de ces jeunes. Le Marlon Brando de L'Équipée Sauvage, sorti en 1953. Le James Dean de La Fureur de Vivre, sur les écrans en 1955. Ce dernier, mort à 24 ans dans un accident de voiture, devient rapidement l'incarnation, le héros de toute une génération qui vit à vive allure sans se poser de questions. Ailleurs, en Europe, c'est la même chose. Les Teddy Boys anglais, les Harpstarken allemands, même la seule est touchée par les jeunes en bande avec les Scunafolle. Et en Italie, ce sont les Vitelloni, les mauvais garçons, comme le titre du film que leur consacrera Fellini, sous-titré en France, Les Inutiles. Tout un programme, toute une approche. Face à ce problème, on réunit un congrès international à Rome, sur lequel Georges Delmar, présentateur de l'ORTF, revient.
Au congrès de Rome, où des experts de la délinquance juvénile ont étudié le phénomène des blousons noirs, l'un des participants a suggéré que la peine du fouet devrait être appliquée à ces voyous afin de les humilier et de réduire leur stupide orgueil par le ridicule. Mais pourquoi ne pas instaurer, tout exprès, pour en finir avec ces dangereux crâneurs, un pilori spécial, un pilori où les jeunes gredins seraient exposés au rire de la foule, dos tourné et culotte basse. À présent, une pareille mortification, comment imaginer jouant au dur un gamin dont tout le monde aurait vu le postérieur?
C'est qu'en cette fin des années 50, les premiers signes tangibles du baby-boom commencent à se voir. Toute une génération arrive à l'âge de l'adolescence, entre 15 et 20 ans, dans une France portée par les premiers effets de ce qu'on appellera bientôt les 30 glorieuses, autrement dit, croissance économique, prémisse de la société de consommation, émergence des classes moyennes. L'essor de la scolarisation, l'urbanisation massive et la pénurie de logements, la mobilité avec la mobylette et le scooter contribuent à faire de ce temps de l'adolescence un âge en soi et favorisent l'émergence des jeunes comme catégorie sociale, ressentie par elle-même et observée par la société adulte. Les blousons noirs deviennent dès lors à la fois l'expression visible, la partie immergée de ces enjeux plus larges, mais il décrit aussi et surtout une jeunesse souvent défavorisée qui appartient à la classe ouvrière et qui vit dans des conditions difficiles. D'ailleurs, est-ce un hasard si elle s'attaque aux objets et aux signes de la modernité, vol de voitures, cambriolage de boutiques de disques? Dignes héritiers des Apaches de la Belle Époque, ces bandes incarnent pour la génération des aînés une décadence morale, on l'a entendu à plusieurs reprises depuis le début du récit. Qui sont-ils, en fait, ces jeunes qui troublent l'ordre sans raison apparente ni revendication politique? D'où vient cette violence gratuite et collective? Qu'est-ce qui fait la singularité de ces bandes? Pour y répondre, la presse de l'époque part à sa rencontre et dresse le portrait de la réalité derrière le mythe.
Dans cette cave, deux jeunesses opposées se retrouvent. Ce petit fait attire l'attention. Il signifie, en tout et pour tout, qu'une bande de blousons noirs a accepté de sortir de son isolement. À cause de cette attitude nouvelle, nous sommes allés voir cette bande de garçons dont un quart environ se trouve en liberté surveillée. Leur lieu de rassemblement est ce café, la Cigale. Les réponses aux questions que je leur ai posées sont souvent brutales, choquantes et presque toujours exprimées dans un langage violent. On ne combat pas un mal en l'ignorant. Nous avons essayé de savoir, sinon de comprendre, à quelle mentalité correspond le comportement habituel du blouson noir et dans quelle mesure cette mentalité peut ou non évoluer.
Si chaque bande a son style de vie, ses codes, ses règles, on retrouve dans la plupart des groupes de blousons noirs des traits communs. D'abord le nom qu'elle se donne. Il rappelle souvent ce qui fait son identité, le territoire, le quartier. La bande de copains, c'est d'abord un groupe de voisins, il y a quelque chose de tribal. Ensuite, si l'on recense parfois des bandes de filles, les blousons noirs s'accordent la plupart du temps au masculin. Il y a un rituel également, une initiation pour entrer dans la bande. Chacun a le sien, mais les principes sont les mêmes. Toujours faire preuve de témérité, ne jamais balancer aux policiers, s'engager à respecter un code d'honneur, faire passer les copains avant les filles. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent, comme le chantait si justement Renaud à la fin des années 70. Et puis souvent, pour entrer dans le groupe, il est demandé au candidat de commettre un délit ou d'affronter un rival dans une bagarre. Enfin, la bande a son organisation, sa hiérarchie. D'abord, il y a le chef, forcément. Du côté des Batignolles, il s'appelle Pilule. Il a 19 ans, il est plombier. Ce n'est pas le plus vieux, mais Pilule, comme la plupart des chefs de blousons noirs, est celui qui s'impose par son charisme, sa force physique, ses faits d'armes. Et puis il est remplacé quand les aléas de la vie d'adulte le rattrapent. La rencontre d'une femme ou le service militaire provoque souvent son départ. On retrouve ensuite des jeunes dans le rôle de lieutenant, du fou, du bouc émissaire. Au Batignolles, Pilule présente ses troupes.
Il y a Boboy, lui qui est plombier, qui a 20 ans. Il y a Bébé, qui a 18 ans.
Qu'est-ce qu'il fait Bébé?
Bébé, il est graisseur dans un garage. Serge, qu'on appelle le martyr, puisque chaque fois qu'on se faisait arrêter par les flics et qu'il y avait une corrida, toujours les flics qui cognaient la gueule au point qu'il en était marqué.
C'est moi qui, à chaque fois, qui prend les coups sur la gueule. Et pourquoi? Parce que renflé. La première fois que je me fais rencharder, c'est rue de Lévis. On revenait de se promener de par là-haut. Il paraît qu'on avait attaqué les vieilles et les grosses conneries comme ça. Alors moi, j'ai essayé de me sauver, c'est normal, j'étais pas habitué à ce genre de machin, je me suis jamais fait gauler par les flics. Alors il y en a qui me rattaquent par les ponts à coups de savate, à coups de tout le cinéma. Alors comment vous voulez les aimer aussi?
Dis donc, quel genre de bêtises tu te permets de faire, toi? Quel est le maximum que tu te permets de faire?
Est-ce que je pourrais vous dire?
Tu peux répondre à cette question ou pas?
Si, je peux vous répondre si vous voulez. Quoi?
On merde
un peu. Ouais, d'accord, on merde un peu les gens. Crier, chanter au milieu de la rue. Qu'est-ce qui les gêne? Parce que déjà, permettez-moi de vous le dire, comme j'ai dit en face un jour d'un adjoint commissaire, la société nous aime pas les jeunes. On aime pas les jeunes.
Alors, quels seraient les crimes des blousons noirs? Si cette violence décrite par la presse est d'abord une violence dirigée contre elle-même, c'est-à-dire entre bandes rivales au cours de bagarres pour le contrôle d'une rue, le prestige et l'honneur, les blousons noirs se rendent aussi coupables de nombreux délits contre les autres, au premier rang desquels, le vol. À la fin des années 50, c'est ce délit en forte hausse qui constitue le problème central de la délinquance. On vole pour la valeur de l'argent, la promesse d'indépendance, l'accès au bonheur. Et c'est là que réside la nouveauté. Car avant, on braquait pour la survie ou l'enrichissement. Désormais, on détrousse comme on consomme pour un usage immédiat et ludique. La voiture qu'on choirave, c'est pour l'utiliser tout de suite, faire quelques tours avec les copains. Autre type de délit, les attaques contre les objets de la voie publique, les magasins, les vitrines ou les représentants de l'ordre. On s'en prend aussi aux passants, à ceux qui diffèrent, les adultes, les étrangers, les homosexuels, les bourgeois, les snobs, comme on dit à l'époque. Une violence qui peut aller de l'insulte à la simple bousculade, mais qui peut déboucher également sur une véritable agression physique. Ces délits ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi des actes plus graves, comme les viols collectifs, dont la police relève de nombreux cas, avec à chaque fois, ou presque, une absence de conscience chez les jeunes de la gravité des faits qu'ils commettent. Ainsi, la plupart de ces blousons noirs passent par la case prison, simple garde à vue, sursis ou quelques mois ferme. Une étape que certains revendiquent, oui, comme une sorte de label.
On a dit que certains d'entre vous sortaient de prison, c'est vrai ça?
Ça c'est vrai.
Bon, qui par exemple?
Ben moi.
Toi, qu'est-ce que t'as fait?
Moi j'ai fait des athlétistes quoi.
C'est-à-dire?
J'ai volé des voitures, tout ça.
Volé des voitures et toi?
C'est pareil quoi. Fait évasion, tout ça.
C'est difficile de prendre des voitures, comment tu t'y prends?
Bon, on s'y prend quoi, il faut avoir un tournevis ou... Ah, rien quoi, c'est...
Et qu'est-ce que tu en fais de ces voitures?
Ben voilà, nous ce qu'on fait, on va faire un tour quoi.
Tu serais capable de faire un hold-up?
Ça dépend dans quel cas, quoi. Si réellement je suis fauché, j'ai rien du tout, j'ai rien pour vecter, je sais pas.
Est-ce que pour un million ou deux, tu serais capable de faire un hold-up?
Ouais.
Comme ça, carrément.
Enfin, au point d'en dessus, ouais.
Il ne semble pas pourtant que la délinquance soit le principal moteur de ces jeunes pour affirmer leur identité blouson noir. Se réunir est motivé par le désir de l'entre-soi, l'amusement à plusieurs, combattre l'ennui. Alors, pour compléter le portrait de ces jeunes-là, journalistes et spécialistes penchent sur leur goût. Puisqu'ils ne semblent rien revendiquer, qu'il s'agit de rebelles sans cause, il faut bien comprendre quels sont leurs plaisirs, à quoi ils occupent leur temps et leurs occupations. Pour la bande de Batignolles, la réponse est immédiate. Son temps libre, elle l'occupe pas.
Qu'est-ce que vous faites le dimanche?
Oh, dimanche, on va à la patinoire.
À quelle patinoire vous allez le dimanche?
Fédérale. Bien quoi, Marcel Sambet.
Toujours à la fédérale?
Oui, toujours à la fédérale.
Pourquoi?
Oh, c'est trop bien, vous.
C'est la meilleure ambiance.
Est-ce que vous arrivez d'aller au bal quelquefois?
Oh, c'est assez rare.
Bon, chez nous, en général, les gars, ils dansent pas.
Non? Ça amuse pas?
C'est pas que ça les amuse pas, c'est parce qu'ils ont jamais essayé. On leur a déjà fait aimer la patinoire, c'est déjà pas mal.
Pourquoi vous allez tous au patinage,
les filles? Ben, pour plusieurs raisons. Oui, il y a des filles qui vont là tous les dimanches. En plus de ça, c'est un peu la roue tournante des blousons noirs, si on peut dire. Il y a tous les copains là-bas, de tous les quartiers. En plus de ça, c'est une journée pas chère, on s'amuse bien.
Au-delà de ces lieux et moments de la culture jeune naissante, comme le bal, la fête foraine ou la patinoire, les images et icônes du cinéma essentiellement américaines, il y a bien sûr, au cœur du phénomène, le rock'n'roll. Une musique violente, agressive, inspirée du rhythm blues noir américain qui exprime la révolte de la jeunesse contre l'autorité familiale et sociétale, contre l'ennui à l'école, au travail. Une sorte d'acmé juvénile symbolisée par des idoles qui s'appellent Elvis Presley, Eddie Cochran côté américain, Dick Rivers, Johnny Hallyday, Moustique, ancien blouson noir devenu chanteur côté français. Et puis l'ange noir, Vince Taylor, tout de cuir vêtu, rebelle parmi les rebelles, qui donne un concert à Paris, au Palais des Sports, en novembre 1961, et le show vire à l'émeute.
N'ayez pas d'une attaque, si votre amour...
Le Palais des Sports parisien, à l'heure du rock'n'roll, ça c'est du sport. Mais la jeune vague n'a rien inventé, ce qu'elle appelle aujourd'hui rock, du temps de grand-papa, ça portait déjà un nom. On appelait ça la danse de cinq. Bilan de ce petit festival, 2 millions de dégâts, quelques bosses, des yeux au beurre noir et un cimetière de chaises cassées. Bref, du grand art. Pourquoi donc vous en plaindre, monsieur Weinsteller ? Vous y êtes peut-être pour quelque chose.
Le rock'n'roll dépasse le phénomène blouson noir, car c'est toute une jeunesse qui se retrouve autour de cette musique qui brise les frontières sociales. Les jeunes de tous les milieux l'écoutent et dansent sur son rythme fou. Bientôt, on parlera des blousons dorés ou des blousons roses au moment où des bandes de jeunes versaillais issus de milieux aisés se mettent aussi à commettre des délits en groupe. Le signe que ce n'est pas seulement une fange radicale de la société qui pose problème, mais tout un groupe, celui des adolescents, que le pouvoir politique et la société vont devoir maintenant prendre en compte.
C'est noir, il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, et c'est fini. Oh, 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 ça me rend fou. J'ai cru à ton amour et je perds tout. Je suis dans le noir, j'ai du mal. Au cri de l'ennui, et je te crie, oh, 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 je ferai tout pour sauver notre amour, tout jusqu'au bout. Si un mot peut tout changer, je le trouverai. Il ne faut plus en douter. C'est noir, il n'est jamais trop tard. Pour moi du gris, je n'en peux plus dans ma vie. Oh, oh, ça me rend fou de perdre ton amour, je te l'avoue. Maintenant, pour le sauver, à tout je suis prêt. C'est noir, il me reste l'espoir. Noir, c'est noir, il me reste l'espoir.
Dans un commissariat de police de France, nous avions installé la semaine dernière notre micro. Le policier qui parle est un vrai policier et le blouson noir, un vrai blouson noir.
Hé, hey, au suivant, entrez. Bien, allez, prenez, siège ici. Alors, qu'est-ce que c'est ces histoires ? On procède à des tentatives d'enlèvement ?
Non, on s'amusait.
Dans la ville ?
On s'amusait.
Vous vous amusiez à bord d'une deux chevaux. Vous prenez une jeune fille, vous l'entraînez dans la voiture, et vous démarrez rapidement. Pendant ce temps-là, tout le monde est ameuté, on entend crier, la jeune fille se met à crier, le coup de sifflet, et heureusement pour vous, vous êtes arrêté 10 mètres plus loin.
Alors, vous voulez
expliquer un peu votre affaire, hein.
Vous voulez plaisanter avec
vous
elle.
Vous vouliez plaisanter avec elle. Alors c'était une combine qui était montée, ça.
Non, non, pas du tout.
Elle n'était pas montée. Mais comment ça se fait? Cette jeune fille-là, elle devait être dans la course, là, pour...
Non, on l'avait rencontrée une fois par hasard au bal.
Face à l'emballement médiatique, les autorités politiques qui se sont penchées depuis quelques années sur la jeunesse du pays tiennent à marquer leur distance face au phénomène des blousons noirs. Au sein de la direction de l'éducation surveillée, en charge des mineurs au ministère de la Justice, on ironise par la voix de son directeur qui dit « Lorsque je suis parti en congé au début de l'été 59, nous parlions de délinquance. Quand je suis revenu au milieu du mois d'août, nous avions les blousons noirs. » On lance des enquêtes tout de même pour cerner le phénomène sur la délinquance juvénile, son évolution, son ampleur réelle. Les conclusions principales du rapport paru en 1960 sont de deux ordres. D'abord, les bandes de jeunes structurées et organisées, si souvent relayées par la presse, sont peu nombreuses. Ensuite, le phénomène des bandes n'est pas nouveau et n'est pas forcément plus important que les années précédentes. Malgré tout, le Centre spécial d'observation de l'éducation surveillée tient compte de la hausse de la délinquance et envisage des mesures plus ou moins sérieuses pour régler le problème. Envoi des jeunes en Algérie, ouverture de prisons-écoles, brigades policières spécialisées. À ce propos, écoutons le directeur de l'éducation surveillée.
Vous devez avoir, Monsieur Secaldi, beaucoup de travail en ce moment avec les blousons noirs. J'aimerais que vous nous en parliez.
Quelle est cette réalité blouson ? Eh bien, il y a parmi les blousons noirs des situations extrêmement diverses. Je le dis tout de suite, une minorité de délinquants et une grande majorité de mineurs en danger. Le comportement des blousons va de la simple turbulence jusqu'à la délinquance. Nous assistons actuellement à une montée en flèche de la délinquance et il faut faire face à ce phénomène.
Les blousons noirs sont aussi un moyen d'instrumentalisation politique, un prétexte pour mettre en cause le régime de la Ve République naissant et le pouvoir en place. Le Parti communiste, lui, très puissant à l'époque, a du mal à se positionner. D'abord, à la défense de ces blousons noirs prolétaires, victimes du capitalisme qu'il faut chercher à comprendre, bien. Puis, rapidement un éloignement, face à l'absence de revendications idéologiques de ces jeunes. Du côté du gouvernement de Michel Debré, par l'intermédiaire du haut-commissaire à la jeunesse et au sport, Maurice Herzog, l'objectif est annoncé. La prévention, oui, plutôt que la sanction. Le diagnostic est posé. Une grande partie de cette jeunesse déviante et délinquante est surtout composée d'enfants de quartiers populaires, des cités ouvrières, des quartiers nord-parisiens, de la banlieue des villes. Là, dans ces territoires, l'insalubrité des logements, la surpopulation et le manque d'infrastructures publiques favoriseraient les délits. Le délitement des structures familiales expliquerait aussi que la bande devienne un refuge. Alors, en réponse, cette fin des années 50 voit le début des initiatives sociales en direction de la jeunesse. C'est le lancement des premières équipes d'amitié, de protection de l'enfance, des foyers Léo Lagrange ou des maisons des jeunes et de la culture. En 1961, s'ouvre à Paris le premier club de jeunes. Ici et là, des initiatives souvent privées, parfois publiques, visent à les accueillir et surtout à les occuper. À Rouen, le directeur du club de jeunes local explique sa démarche.
Bien, l'idée m'est venue que moi-même j'étais gosse dans le quartier, je suis né dans ce quartier et que je n'ai jamais eu de local pour me réunir, ni de bâtiment pour me distraire et avoir des loisirs. J'ai pensé que les garçons de 17 ans maintenant avaient les mêmes problèmes que quand moi j'en avais 17, et qu'il fallait peut-être penser à avoir un local où ils pourraient passer leurs loisirs après le travail, ou le samedi après-midi ou le dimanche, et aussi avoir un local pour pouvoir penser à organiser des loisirs plus éducatifs, et peut-être des campings et des organisations de football ou autre.
Et les garçons sont ici chez eux, en quelque sorte?
Les garçons sont ici chez eux, ils décident exactement ce qu'ils veulent eux-mêmes.
Et puis, la culture blouson noir se démode chez les jeunes autant que dans la presse. D'un été à l'autre, on peut fixer de manière symbolique au soir du 22 juin 1963 la fin des blousons noirs. Ce soir-là, en effet, est organisé Place de la Nation à Paris un concert gratuit. L'événement est à l'initiative de Daniel Fulbacki, créateur de l'émission radio sur Europe numéro 1, comme on disait à l'époque, Salut les copains, et du magazine du même nom. Pour seule publicité, il lance lui-même un appel à l'antenne. Venez tous, samedi soir à 9h, place de la Nation. Sur scène sont attendus les stars du moment, Daniel Gérard, Mike Shannon, les Chats Sauvages, et puis surtout, le couple d'une génération, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Ces derniers sont en Camargue, en plein tournage d'un film amené à devenir l'emblème d'une culture, D'où viens-tu, Johnny ? Ils arrivent le soir même à Paris. Alors que les organisateurs attendent 50 000 personnes, ce sont 150 000 copains qui répondent à l'appel de Daniel Filipacchi. Face à cette incroyable affluence, les organisateurs demandent le renfort de la police. Et c'est à ce moment-là que débarquent de Belleville, de la place d'Italie et de Joinville, sans se donner le mot, 15 bandes de 20 à 30 blousons noirs venus perturber la fête des copains. Inévitablement, ces 500 jeunes font du grabuge.
Sur le cours de Vincennes, les places de la Nation, à Paris, on dresse aujourd'hui le triste bilan de la nuit du twist.
Oui, une voiture entièrement disloquée, 9 vitrines brisées, 2 becs de gaz abattus par les fans qui s'étaient déplacés en nombre, on parle même de 200 000, on doit un peu exagérer, et qui ont applaudi Johnny, Sylvie et Richard. Les copains s'étaient même installés sur le store d'un café pour mieux voir le propriétaire de la brasserie des Colonnes, qui n'a plus de store, a attaqué en justice les organisateurs. Enfin, ce qui est plus grave, une jeune fille de 17 ans a été violentée place de la Nation, elle a dû recevoir des soins à l'hôpital et le commissaire de police du quartier a ouvert une enquête.
Le lendemain, la presse s'emballe. Paris Presse titre « Salut les voyous ». Avec un sens aigu de la nuance, Philippe Bouvard se demande dans le Figaro quelle différence il y a entre le twist de Vincennes et les discours d'Hitler au Reichstag. Seul Edgar Morin, dans Le Monde, livre une analyse sociologique et semble saisir les enjeux de cette folle nuit de la Nation dans un titre qui résume tout, « Le temps des yéyés ». Car c'est bien ce qui s'est passé ce soir-là, la rencontre de deux jeunesses. L'une marginale, violente et fantasmée, les blousons noirs, et l'autre rattrapée par l'industrie, acceptable et acceptée, finalement entrée dans le rang, les yéyés. Alors, fini les bandes, bienvenue aux copains. Il aura fallu une saison et un été trop tranquille pour construire un mythe autour de ces blousons noirs, un mythe encore vivant. Bientôt, rebelles sans cause des quartiers défavorisés, ces blousons seront remplacés par les bourgeois des universités à la conscience politique aiguisée et qui n'auront pas besoin de manteaux de cuir, de mobilettes pour soulever les pavés et appeler à la révolution. Ou quand la jeunesse des écoles remplace celle des usines.
Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu? J'ai pas un rond et j'ai pas l'air sérieux, sérieux. Je suis un loubard parmi tant d'autres, je crèche pas loin de la défense. J'ai l'air crado, c'est pas ma faute, mon HLM c'est pas Byzance. Mon pote, mon pote. À 14 ans, mon paternel m'a fait embaucher à l'usine. 2 jours plus tard, j'ai fait la belle. Pareil que je suis un fils indigne, bordel. Un soir, dans une rue déserte, j'ai fauché une onde à 500. Un fils de bourgeois honnête, avec elle je fonce à 200. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mon copain Pierrot s'est planté sur l'autoroute un jour de pluie. Parfois je l'entends rigoler, c'est sûr qu'il est au paradis. C'est enflé, c'est enflé. Et moi je continue mon cinoche au pied de ces buildings miteux. Je voudrais crever avant d'être moche, je voudrais finir comme toi mon vieux Gavroche. Un loubard périphérique, j'en ai plein les bottes de ce bled. La France est une banlieue merdique, comme dit mon copain Mohamed. Aux flics, aux flics. Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. C'est drôle, le bitume est tout bleu, y'a ma bécane qui crame par terre. Bon Dieu, bon Dieu. Oh bon Dieu, bon Dieu, oh mon Dieu, bon Dieu, oh bon Dieu, oh bon Dieu.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les blousons noirs, notre invitée Sophie Victorien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, on peut dire spécialiste de la jeunesse, en tout cas vous avez beaucoup travaillé sur ce thème-là, en témoigne le livre, votre livre que j'ai entre les mains, intitulé « Jeunesse malheureuse, jeunesse dangereuse », l'éducation spécialisée en Seine-Maritime depuis 1945, paru aux presses universitaires de Rennes. On va reprendre une phrase de l'historienne Françoise Tétart, que vous connaissez probablement, et qui dit « Les blousons noirs ont rendu la société bavarde ». C'est intéressant, comment vous traduisez cela, vous ?
Oui, alors Françoise Tétart avait en effet publié notamment un article sur les blousons noirs, où elle expliquait comment cette figure menaçante des blousons noirs avait surgi dans la société, et comment la presse aussi s'était emparée de ce phénomène. Et toute la question était de savoir, est-ce que la presse se fait le relais de l'opinion publique, ou est-ce qu'elle a en partie construit aussi l'opinion publique ?
Bien sûr. D'ailleurs, en témoignent les premières voix très réactionnaires que nous avons entendues dans le récit où il n'y a pas de nuance, jusqu'à l'outrance de Bouvard, donc je ne vais même pas répéter la phrase tant elle est odieuse. Mais, donc il y a cette incompréhension, il y a ce mur de l'incompréhension, c'est ça ?
Oui, c'est le sentiment qu'on a en effet lorsqu'on écoute les reportages, quand on lit les articles, une sorte de conflit de génération en effet face à ces croulants, face à cette nouvelle vague de jeunes qui arrivent, alors les enfants de la guerre, puis ces baby-boomers qui arrivent avec leur goût propre, qui ne sont pas du tout adaptés au goût des croulants, entre guillemets. Et donc cette incompréhension provoque en effet des propos parfois en effet très malheureux. Heureusement, des spécialistes de la question vont s'emparer de ce phénomène des blousons noirs et tenter de nuancer justement
ces
réactions.
Bien sûr, on les a entendus également. En quatrième de couverture de votre livre, je lis, mais dès le début, la libération est marquée par une très forte inquiétude des pouvoirs publics face à la délinquance juvénile et plus largement face à la jeunesse en difficulté. Elle révèle ainsi les fortes perturbations, voire les traumatismes subis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors, les jeunes dont nous parlons, nous sommes en 59, ils n'ont pas connu la guerre, en tout cas, ils étaient trop petits, je vais faire mon calcul, elle s'est terminée en 45, on est en 59, ils ont 14 ans, ils n'ont pas connu. Il y a une interaction, est-ce qu'il y a un rapport avec la guerre avant, ou des jeunes issus du baby-boom, est-ce qu'il y a un rapport à faire ou pas ?
Alors, les premiers blousons noirs sont en effet ce qu'on appelle plutôt des enfants nés pendant la guerre, puis en fait on a cette vague des blousons noirs. Alors c'est vrai que les conséquences de la guerre sont quand même encore visible. La France met beaucoup de temps à se reconstruire, et donc même si certains n'ont pas vécu directement la guerre, ils la subissent encore. Le pays est en pleine reconstruction. Et donc, ce qui est aussi intéressant d'observer, vous l'avez fait remarquer, c'est la localisation des blousons noirs. On le voyait dans les témoignages. Les blousons noirs, où est-ce qu'on les trouve ? Dans les quartiers populaires, puis progressivement dans ce qu'on appellera plus tard les grands ensembles.
Bien, d'où les résonances avec aujourd'hui.
Oui.
Alors, avec des nuances, bien sûr, c'est toujours un peu aventureux de calquer une époque sur une autre, évidemment,
tout
parce qu'il s'est passé plein de choses entre-temps. Mais il y a quand même certaines résonances.
Oui, il y a des résonances. De toute manière, le phénomène des bandes de jeunes n'est pas un phénomène nouveau, ça on le voit.
Bien sûr.
Donc, vous avez évoqué les Apaches, on peut parler des J3 pendant la Seconde Guerre mondiale, du nom des cartes de rationnement destinées aux 13-21 ans. On peut parler en effet donc des blousons noirs, puis des cheveux longs, des loubards, etc., des jeunes des cités par la suite. Donc, ce phénomène perdure, et c'est ce qui est vraiment intéressant, ce phénomène des bandes de jeunes, à ne pas confondre avec les groupes de jeunes, ces groupes informels où on se rassemble par classe d'âge, par goût commun. Et donc là, on est bien dans l'idée de bandes de jeunes qui se rassemblent autour d'un chef, avec des codes de reconnaissance, en effet des lois propres. Et ce phénomène est intéressant, quelle que soit l'apparence, quelle que soit l'excise corporelle, quels que soient les goûts musicaux, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces regroupements, cette volonté des jeunes de s'affirmer d'une manière ou d'une autre, et ces jeunes qui questionnent la société sur sa capacité à les intégrer.
Des jeunes qui, rappelons-le, quand ils portent des blousons noirs, sont essentiellement des jeunes ouvriers qui ont quitté l'école tôt, qui vivent dans des conditions difficiles. Il y a une vraie fracture sociale. Est-ce que c'est aussi le miroir d'une fracture sociale qui existe déjà, ces blousons noirs ?
Alors ces blousons noirs, en effet, sont issus de la classe ouvrière, sont sans emploi, ouvriers, employés, etc. Donc ils sont représentés en effet de jeunes plutôt peu aisés et des quartiers populaires. Et on peut remarquer aussi dans leur discours parfois même une haine de classe vis-à-vis de ceux qu'on appelle les bourgeois, qu'on appellera par la suite les blousons dorés.
D'accord.
Qui écoutent du jazz, qui sont dans les beaux quartiers, entre guillemets, Saint-Germain, etc.
Donc il y a une dimension politique sans qu'ils en aient forcément conscience. On s'aperçoit de temps en temps qu'il n'y a pas non plus embouteillage au niveau des neurones. Parmi certains de ces... Donc quand on les entend, il n'y a pas de conscience politique, il n'y a pas de cause politique, il y a un besoin d'être reconnu. Il passe par la violence. Alors, est-ce que là aussi, c'est fantasmé quand on entend ces journalistes de l'époque, totalement effrayés, poussant des cris d'orfraie, devant ces bandes si dangereuses? Est-ce qu'il était vraiment une délinquance forte, ou est-ce que la délinquance était un élément parmi d'autres pour exister?
Alors, la délinquance, elle se justifie de différentes manières. C'est-à-dire, on va commettre des actes de délinquance par désœuvrement, par ennui, pour occuper son temps. Mmh. On va occuper son temps, mais aussi on va commettre des actes de délinquance par, convoitise, en quelque sorte, ou pour gagner aussi de l'argent. Donc, ces actes de délinquance, ils sont réels, mais il s'agit surtout de vols, comme vous l'avez dit, de motocyclettes, de motos, de voitures.
C'est pas les grands banditismes. Hein,
Alors, certains vont tomber dans le grand banditisme, en effet. Alors, on a cette idée de spirale, hein, on passe par la bande et après la prison, etc. Non, ces actes de délinquance ne sont pas communs à toutes les bandes. Hein, et tous les blousons noirs ne sont pas des délinquants. Et on voit bien par le parcours de certains qui sont des employés, des ouvriers qui, par la suite, vont se marier, avoir
bien
des
sûr.
Enfants.
Et une vie tout à fait honnête
et
respectable. Est-ce qu'il faisait peur aux gens? Je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus. Est-ce qu'il y a un vrai sentiment de peur? Est-ce qu'on se disait, oh là là, on va sortir dans la rue, on va tomber sur des blousons noirs, on a peur, non?
Alors les gens ne vivaient pas dans la peur de croiser les blousons noirs, mais porter un blouson noir, c'était pas un acte anodin, en fait. Hein. Ouais. Donc c'était quand même une certaine revendication. Donc on est un blouson noir. Donc ça pouvait effrayer, en effet, mais les gens n'étaient pas du tout dans une peur constante du blouson noir.
Alors on l'a vu dans le récit, il y a tout un discours qui essaie à la fois de saisir le phénomène, tout en parlant de mythes, mais en même temps d'assister à débusquer la réalité. On va écouter un avis intéressant, celui du célèbre pédopsychiatre à l'époque, Georges Heyer.
Il faut donner des centres d'accueil à ces jeunes gens, des centres de distraction. Il faut qu'ils y viennent là spontanément, que ce soit pour eux un centre de loisirs où non seulement on peut leur donner des distractions, mais aussi leur donner la possibilité de prendre des initiatives de travail et d'orientation pour l'avenir. Dans ces centres de prévention, c'est extrêmement utile. Enfin, le rôle de la presse. Quand on voudra bien supprimer les photographies de tous les délinquants, jeunes adultes, puisqu'on n'a pas le droit de photographier au moins les jeunes gens, quand on voudra bien réduire au minimum les descriptions des méfaits commis par ces bandes de jeunes, quand on voudra bien ne pas leur donner des étiquettes comme celui des blousons noirs, qui est en quelque sorte un engagement envers un signe de ralliement, eh bien déjà il y aura beaucoup de choses de faites. Il vaut bien dire la censure tout de même du cinéma, au point de vue des images même qui sont à la porte du cinéma et aussi de certains films dans lesquels il y a un encouragement à l'agressivité et à l'érotisme, à l'immoralité, car nous avons parlé des garçons, il faudrait aussi parler des filles et de cet engagement à l'érotisme que l'on voit dans certains films. Alors il y aura tout de même un effort national qui pourrait être fait avec la direction de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du ministère de la Justice.
Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que dit Georges Heyer. Qu'est-ce que vous retenez, vous?
Alors, c'est vrai que c'est une grande figure, Georges Heyer, un des experts des jeunes inadaptés, comme on disait à l'époque. Mmh. Et là, ce qu'il dénonce, c'est quand même le rôle de la presse, encore une fois.
Mmh.
La falsification, même parfois, de certains faits, l'utilisation de l'image, qui est très importante. On sait que certains journalistes ont même proposé de l'argent à des jeunes pour poser en mimant des bagarres. Et ont été pris en photo donc contre de l'argent. Ça, on sait qu'il y a une mise en scène en fait de ce phénomène des blousons noirs. Ce qui est intéressant, c'est ici dans le propos de Georges Heyer, c'est aussi la recherche des causes.
Oui, bien sûr. Alors.
Alors le cinéma.
Ouais.
Là, on voit aussi le rôle important du cinéma.
Cinéma et musique. Alors le rôle de la culture, d'une certaine culture.
Voilà.
Quel est-il?
On dénonce les experts de l'enfance dénoncent les loisirs de ces jeunes. Alors. On a vu le rock'n'roll avec cette fameuse danse de Saint-Guy.
Oui, qualifiée de danse de Saint-Guy, ça c'est quand même énorme.
Oui, et avec ces concerts rock justement qui sont l'occasion de bagarres, justement relayées aussi encore une fois par les journalistes. Le cinéma, alors les cow-boys, les cinémas policiers, mais aussi le cinéma qui montre justement ces blousons noirs sous un jour plutôt favorable, en fait. Et donc, le cinéma influencerait ces jeunes, les pousserait en quelque sorte à commettre des actes de délinquance.
Oui, alors donc l'argument évidemment a ses limites dès lors qu'on dit que l'art ou la culture va trop loin. Évidemment, on se heurte à un mur parce que la culture est par définition libre, pas voir ce qu'on en fait. Mais en même temps, c'est normal que ces jeunes aient été influencés par des visages, des figures, James Dean, enfin des gens comme ça. Il y a quelque chose de tout à fait logique aussi là-dedans.
Tout à fait, il y a un besoin de s'identifier à des figures viriles, telles que James Dean, Marlon Brando, etc. Mais ce qui gêne peut-être aussi un petit peu, c'est que ce sont des figures venant de l'Amérique, des États-Unis. Donc oui. Là aussi, on est dans une période où peut-être s'identifier à des grandes figures des États-Unis, ça ne plaît pas forcément.
Bon, alors heureusement, et on l'a vu dans le récit, tout n'est pas qu'incompréhension. Il y a beaucoup de bonne volonté, de gens qui réfléchissent et qui se disent il faudrait quand même que l'État se mette à, non pas à régler le problème, mais apporte une réponse. Et alors, on a des initiatives dans les quartiers défavorisés, pour parler comme aujourd'hui. Et là, on voit encore des résonances. Qu'est-ce qui se passe à un moment donc, pour ces jeunes, pour les accueillir, pour les occuper? Qu'est-ce qui se met en marche?
Alors c'est vrai que ces jeunes questionnent aussi toute la législation qui a pu se mettre en place concernant la justice des mineurs, notamment la fameuse ordonnance du 2 février 1945, hein, qui est encore et toujours d'actualité, hein, qui est régulièrement réformée, et donc cette ordonnance relative à l'enfance délinquante. Donc on se pose la question de la rééducation. Est-ce que la rééducation est efficace? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à des mesures beaucoup plus sévères vis-à-vis de ces jeunes? Parallèlement, des initiatives en effet sont à noter dans les quartiers pauvres, ce qu'on appelle aussi des ghettos, hein, déjà à l'époque. Et des personnes de bonne volonté vont mettre en place notamment ce qu'on appelle des clubs de prévention, et donc ces clubs de prévention vont se professionnaliser progressivement et jusqu'à appartenir à l'éducation surveillée, l'ancêtre de la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc vous avez des éducateurs de rue mais qui, d'abord de manière informelle et voire bénévole, vont s'occuper de ces jeunes dans des baraques où on va jouer au baby-foot, où on se retrouve entre jeunes pour discuter, etc. Et donc, ils vont proposer des loisirs organisés, pour reprendre les termes de Bernard Hémault, que l'on a entendu tout à l'heure, qui est une grande figure aussi de l'éducation surveillée, qui a été un des premiers à mettre en place la prévention spécialisée. Et donc, on occupe ces jeunes, dans des loisirs organisés, la boxe, des campagnes, le football, etc.
Est-ce que ça fonctionne?
Alors c'est difficile de dire
c'est,
oui.
C'est
ça
souvent
fonctionne.
Oui et non, hein, je sais bien. Mais...
Voilà, c'est très compliqué de répondre à cette question. Mais les éducateurs, les habitants, alors là pour le quartier dont il était question, c'était un quartier de Rouen, donc à la Croix-de-Pierre. Pour ce quartier, a priori, les choses fonctionnent très bien. Et on voit différentes études s'opérer autour des clubs de prévention. Et les retours sont quand même globalement positifs.
Est-ce que les MJC, les fameux MJC, sont des émanations de la réponse à donner à une jeunesse perdue?
Alors, à cette époque-là, les MJC, ce ne sont pas les clubs de prévention. Et il y a aussi une distinction, en fait, entre les clubs de prévention, plutôt pour les jeunes d'origine populaire, et les MJC, qui sont peut-être un peu moins tournés.
Les clubs Léo Lagrange, par exemple, d'obédience socialiste, eux sont voilà. dans ce...
Donc l'idée aussi, c'est de sortir ces jeunes de la ville qui peut aussi les pervertir en quelque sorte, en fait. Hein. Et donc, on va au grand air se changer les idées.
Alors, on va écouter une autre voix, parce que malgré tout, hein, le phénomène est pris au sérieux par les contemporains de cette époque. En 1962, Émile Kopfermann publie un livre intitulé « La génération des blousons noirs ». Peut-être avez-vous travaillé sur ce livre aussi. Une enquête sociologique pour saisir le phénomène. On va écouter une archive où Kopfermann revient justement sur son enquête.
Quelles sont les conclusions majeures que vous avez tirées de cette analyse de la situation de la jeunesse française?
Deux sortes de conclusions. La première, c'est qu'au fond, il y a une très grosse majorité de jeunes qui est totalement passive et une faible minorité, disons, qui se manifeste de différentes façons, enfin, celles qu'on a appelées les blousons noirs. Au fond, je crois que les deux phénomènes sont liés, je veux dire la passivité et l'activité de ces deux parties de la jeunesse. C'est-à-dire que, au fond, je crois que les conditions générales de vie des jeunes font qu'on suscite leur passivité et qu'un des moyens, enfin, pour eux d'y échapper, c'est de s'exprimer d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire de s'exprimer aussi bien dans la violence que dans l'opposition systématique, etc.
Oui, et quels sont les remèdes à cette situation de la jeunesse? Dans votre livre, vous en avez cité plusieurs.
Oui, c'est-à-dire que je crois que des remèdes, il y en a à tous les niveaux. Je crois même, enfin, qu'un des gros griefs qu'on pourrait porter contre ces remèdes eux-mêmes, c'est, leur fragmentation. Il y a des remèdes, disons, à toutes les étapes de la vie des jeunes. C'est-à-dire que les conditions, par exemple, d'enseignement, elles sont assez démentielles pour qu'on n'y revienne pas. Elles provoquent, je crois, déjà une inadaptation d'une partie importante des jeunes. De la même façon, l'absence de formation professionnelle suffisante, l'absence de débouchés suffisants dans la vie professionnelle, tous ces éléments font qu'il y a une multitude de solutions à apporter, que trop souvent on en apporte quelques éléments ici ou là, mais que dans la mesure où un seul des éléments change, je crois que rien n'a changé.
Alors ce qui a changé en tout cas aujourd'hui par rapport à cette époque-là, c'est qu'aujourd'hui on connaît le chômage endémique. À cette époque, c'est la croissance. Donc c'est quand même différent. Aujourd'hui, il y a la drogue. Est-ce qu'il y avait un effet même de drogue à l'époque ou pas?
La drogue est surtout arrivée dans ce milieu plutôt populaire dans les années 70, hein, fin des années 60.
Donc, années 70. C'est un élément différent par rapport à aujourd'hui. Dans la mesure où on est dans des années de croissance, que les entreprises cherchent de la main-d'œuvre, est-ce que c'était pas quand même la première potion à apporter? On le dit aujourd'hui, si les jeunes des quartiers défavorisés avaient du travail, les quartiers seraient un peu moins défavorisés et eux seraient moins défavorisés. Là, il y a du travail. Est-ce que ça a été la réponse? Le travail?
Oui, alors la formation professionnelle est un élément important d'intégration de ces jeunes, parce que toute la question ici, c'est l'inadaptation, encore une fois, oui, de ces jeunes à la société. Et donc, comment les intégrer dans la société? Par le travail. Et il y a en effet un défaut.
Si tant est qu'ils en veuillent.
Voilà, il y a à la fois un défaut de formation professionnelle et aussi parfois un problème de motivation. Et les éducateurs, en effet, doivent travailler sur ces deux leviers. Et donc ces jeunes qui passent parfois par les foyers de rééducation, de l'éducation surveillée, donc doivent à la fois leur trouver une bonne formation professionnelle qui leur convienne et aussi les habituer au milieu du travail, à savoir se lever tôt, respecter les horaires, etc.
Alors, il y a un autre phénomène, je ne sais pas s'il était important ou marginal, mais il a existé, on l'a entendu dans le récit, certains tirent une certaine fierté d'être passés en prison. D'ailleurs, vous évoquez ça dans un petit chapitre que vous intitulez « Les jeunes et la prison entre hantise et fierté ».
Oui, bien sûr, parce que il y a, voilà, le passage en prison peut être vécu comme un événement important dans la vie de ces jeunes en recherche de figures viriles. Donc, on est passé par la prison, on sait ce que c'est, et donc c'est vrai que ça peut être en quelque sorte une fierté. Ça peut laisser des traces aussi, on le voit avec les tatouages, d'ailleurs, qui sont symboliques parfois de la prison.
Ça peut laisser des traces psychologiques aussi.
Et ce que j'allais ajouter en effet aussi, c'est que, d'où le titre, entre hantise et fierté, c'est-à-dire qu'on joue les durs, entre guillemets, mais le passage en prison peut être terrible, d'autant que certains sont mineurs et parfois la séparation mineur-adulte n'est pas forcément effective en prison.
Et puis il y avait le service militaire aussi, qui devait être un élément important à cette époque. Et puis il y avait la guerre d'Algérie également. Alors là, on est entre hantise et hantise, j'imagine. Il n'y a ni fierté ni rien, c'est hantise et hantise. Est-ce que c'est un élément qui entre et qui est important c'est forcément important dans la vie de ces jeunes, mais en tant que solution qu'on pourrait apporter?
Oui, alors c'est vrai que les blousons noirs, en fait, sont pour certains d'entre eux les futurs appelés de la guerre d'Algérie. Donc c'est vrai que c'est une véritable épée de Damoclès pour eux. Et dans les interviews que l'on peut visionner ou lire, les jeunes, en fait, ont l'air relativement fatalistes, encore une fois. Mais est-ce une attitude de ces jeunes qui veulent jouer les gros
postures,
durs? Voilà,
ouais.
On est dans une posture. Ou est-ce réel? Ça, à voir.
Alors, on va terminer. Ce sera ma dernière question qui est reliée au dernier chapitre du récit. Je trouve ça très intéressant, d'ailleurs. Comment on glisse des blousons noirs, des bandes vers les copains, la culture des copains, la culture yéyé. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse qu'on avançait ici dans ce récit, selon laquelle le début des yéyés, c'est la fin des blousons noirs? Cette jeunesse des écoles qui remplace la jeunesse des usines, en gros.
En tout cas, dans les médias. Ouais. Voilà, donc...
c'est toujours...
oui, là, c'est aussi, encore une fois, une mise en scène des journalistes. Alors, en effet, les blousons noirs ne sont plus à la mode, et donc on va passer au yéyé, et on passe à
une bande à une autre.
On passe à autre chose, mais les blousons noirs restent là, et avec leurs problèmes aussi, également.
Merci infiniment, Sophie Victorien. Je rappelle le titre de ce livre fort intéressant, Jeunesse malheureuse, jeunesse dangereuse. Merci beaucoup, au revoir.
Merci.
Aujourd'hui, les blousons noirs, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction. Nous évoquerons le procès de Bobigny en 78, le procès du viol. À suivre la récré musicale de Vincent Josse. Bonjour.
Bonjour
Vincent.
Fabrice.
Soprano, programme.
Oui, on ne sera pas tellement blouson noir aujourd'hui, mais plutôt robe de soirée, on va dire. Ça n'est pas non plus mon genre, mais c'est le genre de mon invité. Une grande soprano, effectivement. Véronique Jean, c'est l'invité de la récréation.
À tout à l'heure. Merci Vincent.